Bien, bonjour à tous. Merci de votre présence à ce cinquième cours consacré cette année au langage du cerveau. Dans les deux précédents cours, nous avons discuté de l'organisation de la représentation de la musique et de la nécessité de faire appel à une réelle syntaxe, à une organisation arborescente pour rendre compte non seulement de la structure musicale, mais des réponses comportementales et cérébrales. Et nous avions conclu qu'il y avait un petit recouvrement, mais sans doute un recouvrement réel, entre les réseaux cérébraux qui s'intéressent à la syntaxe du langage et ceux qui s'intéressent à la syntaxe de la musique. Il y a des dissociations, mais il y a sans doute une ressource partiellement partagée. Alors aujourd'hui, nous allons parler des mathématiques et poser exactement la même question. Quelle est la relation entre le langage naturel et le langage des mathématiques ? Et la question, évidemment, se pose parce qu'il n'y a fait aucun doute, cette fois-ci, qu'il y a besoin d'un langage structuré pour rendre compte de l'organisation des mathématiques. Et en fait, on peut faire référence, par exemple, à cette citation extrêmement classique de Galilée qui souligne que le livre de l'univers est écrit dans la langue mathématique. Ces caractères, évidemment, ne sont pas des mots traditionnels, ce sont des triangles, des cercles, des figures géométriques sans le moyen desquels il est humainement impossible d'en comprendre un mot. Et depuis la période de Galilée, le domaine des mathématiques s'est immensément développé, mais toujours sur la base d'un système de notation formelle et d'une combinatoire de symboles qui sont tout à fait caractéristiques de notre espèce, qui n'existe dans aucune autre espèce animale. Alors, quelle est la relation entre ce langage mathématique et le langage naturel ? Eh bien, pour Noam Chomsky, il n'y a aucun doute, c'est un seul et même système. L'évolution de la faculté de langage aurait joué un rôle essentiel dans l'émergence de l'ensemble des compétences humaines. On avait vu l'article classique de Hauser, Chomsky et Fitch qui place la récursion au centre du noyau de langage. Et pour Chomsky, les capacités mathématiques trouvent leur origine dans ce noyau récursif, dans une abstraction à partir des opérations linguistiques. Chomsky souligne par exemple que pour modéliser les entiers naturels, avec les axiomes de Peano par exemple, on a besoin d'une opération de successeur, aussi simple que celle-là, qui permet de passer d'un entier au suivant et qui s'applique de façon récursive à chacun des entiers. Bon, récursive ou itérative, Chomsky ne fait pas une énorme distinction dans ce contexte particulier, mais c'est vrai que quand on regarde l'organisation du langage des mathématiques, on a besoin d'enchâssement des symboles les uns dans les autres. Alors cela dit, cette idée donc chomskyenne, aussi de Mark Hauser et autres, qu'il y a un système, le langage du cerveau, rentre en conflit avec l'intuition de très nombreux mathématiciens et physiciens qui se sont exprimés sur une base beaucoup plus introspective en tant que professionnel du métier, si l'on peut dire. Et pour Einstein, par exemple, qui répond à une lettre de demande de Hadamard, un mathématicien français, il dit « Selon moi, les mots et le langage écrit ou parlé ne jouent aucun rôle dans les mécanismes de ma pensée. Ils semblent jouer pas le moindre rôle. Les entités psychiques qui servent d'éléments à la pensée sont certains signes ou certaines images plus ou moins claires qui peuvent à volonté être reproduits ou combinés. » Très proche donc de l'idée de Galilée. Et vous trouverez de nombreux scientifiques qui vous disent cela. Je ne fais pas des opérations linguistiques, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, j'ai apporté une contribution personnelle à ce débat dans le livre qui s'appelle « La bosse des maths » en français, « The Number Sense » en anglais, en proposant qu'effectivement, au fondement des mathématiques, il y a des objets qui ne sont pas des objets linguistiques. Il y a des intuitions qui sont beaucoup plus anciennes que l'émergence du langage, qui sont des intuitions du nombre, mais aussi de l'espace, du temps, et qui servent de fondement à la construction symbolique particulière à l'espèce humaine des objets mathématiques. Alors évidemment, cette construction requiert une forme de combinatoire symbolique qui nous est tout à fait unique, et la question de savoir quel est ce langage est posée, mais au moins au fondement, je pense qu'il y a des objets qui ne sont pas des objets linguistiques, et ce sera l'objet des deux cours qui viennent. Néanmoins, on trouve encore dans la littérature d'autres positions qui sont en quelque sorte intermédiaires. Je partage totalement avec Elisabeth Spelke cette idée donc d'un noyau de compétences qui est présent très précocement chez le jeune enfant, qui est un noyau non linguistique. Mais pour Elisabeth Spelke, professeure à Harvard, c'est le langage qui permet malgré tout d'assembler ces systèmes entre eux. C'est le langage qui permet de mettre en relation de façon symbolique les systèmes des nombres et de l'espace, par exemple, et de créer la ligne numérique mentale, de créer un sens exact du nombre et de progresser dans cette pyramide des mathématiques. Donc vous voyez que les choses sont très ouvertes et nous allons essayer d'apporter des données issues en particulier de l'imagerie cérébrale. Alors dans le cours d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur une série de travaux qui sont menés au laboratoire dans le cadre de la thèse de Marie Amalric et qui se sont penchés sur le cerveau des grands mathématiciens. La semaine prochaine, on pourra parler des fondements des mathématiques, du sens du nombre que nous partageons tous, du sens de la géométrie, mais aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe chez les professionnels, comme pouvait l'être Albert Einstein, comme pouvaient l'être d'autres physiciens et mathématiciens. Qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau ? Alors, nous avons mené une série d'études, dont les premières ont été publiées l'an dernier dans PNAS, dans lesquelles on a voulu comparer le cerveau de mathématiciens professionnels, une quinzaine, avec autres membres de la communauté académique, spécialistes des humanités et des sciences sociales, mais qui n'avaient pas eu de formation mathématique au-delà du baccalauréat. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux types de cerveaux, si l'on peut dire ? Et est-ce qu'on peut voir la trace dans le cerveau d'objets mathématiques élaborés que ces mathématiciens maîtrisent, mais que les autres ne maîtrisent pas ? Alors, comment faire pour faire une imagerie de ces réseaux ? Eh bien, nous avions proposé de se concentrer sur ce qu'on pourrait appeler un jugement d'intuition mathématique. On écoute une phrase et on essaye de décider en quelques secondes si cette phrase est juste ou fausse, ce qui oblige à réfléchir évidemment à son contenu. Et vous allez voir tout de suite comment ça se présente. Donc, on présente un signal d'alerte, puis une phrase d'une longueur de 4 à 5 secondes. On laisse au sujet une période de réflexion de 4 secondes, et puis un deuxième bip qui lui dit « maintenant, il faut répondre. Est-ce que la phrase était vraie, fausse ou absurde ?» C'est-à-dire qu'elle ne fait pas de sens. Alors, je vais vous faire écouter certaines des phrases donc, que ces sujets ont entendues alors qu'ils étaient dans le scanner d'IRM à 3 Tesla à Neurospin.
Toute matrice carrée à coefficient complexe est semblable à une matrice triangulaire supérieure.
Vrai ou faux ? Bon, s'il y a quand même quelques taupins dans la salle, c'est vrai. Ce n'est pas des choses extrêmement élaborées, là, pour le coup. Et c'est une phrase rigoureusement vraie. Vrai ou faux, maintenant ?
Il existe une fonction continue de la sphère unité vers elle-même et sans point fixe.
Alors ? Faux, j'entends faux. Je crois qu'il y a des mathématiciens dans la salle. Bon, une dernière.
La projection stéréographique admet pour caractéristique de l'air racine de 2.
Alors ça, pour les mathématiciens, c'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. D'ailleurs, la phrase comparable qu'on a utilisée dans le domaine non mathématique serait par exemple celle-ci.
Le drapeau de la pomme de terre a été guillotiné à la fin du concile de Trente.
Voilà. Vous voyez qu'on s'amuse un peu ici, mais pour les mathématiciens, la phrase que je viens de vous faire entendre avant est de la même nature. C'est du charabia. Voilà. Donc la question, c'est de distinguer ce qui est du charabia, ce qui est vrai, ce qui est faux. Les phrases vraies, je peux vous en faire écouter quelques-unes, vraies ou fausses ici.
En France, au Moyen-Âge, on buvait de l'alcool issu de la pomme de terre.
Vrai ou faux ? Faux. Faux. On n'avait pas encore des cultures de pommes de terre. Bien. Donc vous voyez que toutes ces situations vous demandent de mobiliser vos connaissances, soit dans le domaine mathématique, soit dans le domaine non mathématique, et d'essayer de rassembler vos connaissances pour des choses qui ne sont pas réellement connues, vous n'avez pas ces faits-là en mémoire, ni les mathématiciens non plus, mais vous devez en quelque sorte utiliser votre intuition de la manière dont ces concepts se combinent par le biais du langage pour vous donner une réponse. Alors, question, est-ce que ce sont les mêmes réseaux qui sont utilisés dans les deux cas ? Alors nous avons également comparé ces réseaux des mathématiques de haut niveau et de la réflexion de haut niveau avec les réseaux qui s'activent tout simplement lorsqu'on fait un calcul mental, par exemple 7-3, comparé à l'écoute de phrases qui ne parlent pas de mathématiques. Et puis nous avons aussi ce qu'on appelle un localizer pour les aires visuelles du cerveau. On flash très rapidement au sujet toutes ces images, des corps, des outils, des visages, des maisons, et aussi des mots, des chiffres, en l'occurrence des nombres avec une certaine signification pour les sujets, comme la constante de l'air ici, et puis des morceaux d'équations mathématiques ou un damier qui sert de contrôle. Vous voyez qu'on cherche à cartographier en quelque sorte les aires du cerveau et à voir lesquelles sont impliquées dans certains objets mathématiques. Alors, sur le plan simplement du comportement, Maria Malric a fait tout un travail. Vous imaginez que concevoir ces problèmes qui soient ni trop difficiles ni trop faciles, ça n'est pas quelque chose d'évident. Et le résultat est tout à fait réussi, puisque vous voyez ici les performances des sujets dans l'IRM, ce sont les pourcentages de réussite. Alors, comme il y a trois réponses, le niveau de hasard est au niveau de 33%. Et on peut voir une première chose, c'est que les problèmes sont difficiles. Les sujets font aux alentours de 65% correct. Donc, ils ne savent pas parfaitement répondre. Ça les fait vraiment réfléchir. Les mathématiciens qui sont en noir ici répondent au même niveau aux problèmes mathématiques et aux problèmes non mathématiques. Donc, les phrases sont vraiment bien appariées. Et les sujets contrôle, évidemment, échouent presque complètement sur les phrases mathématiques. Ils arrivent un tout petit peu à dire lesquelles n'ont pas de sens. Donc, on n'a pas parfaitement réussi à camoufler les phrases qui n'avaient pas de sens, mais enfin, c'est quand même très réussi. Et puis, les mathématiciens et les contrôles répondent pratiquement au même niveau sur les problèmes non mathématiques. Donc, en termes de connaissances générales, connaissances sémantiques générales, les deux groupes sont tout à fait comparables. Alors maintenant, je vais vous montrer les activations pendant cette période de réflexion. Et le résultat est extrêmement clair. Il y a tout un réseau d'aires cérébrales que vous voyez ici qui s'active systématiquement lors de la réflexion mathématique et qui ne s'active pas du tout, voire se déactive pendant les phrases de contrôle. Donc vous avez ici l'activation en fonction du temps, par exemple dans cette région du cortex intrapariétal gauche. Et vous voyez que juste après la fin de la phrase, ce réseau entre en activité de façon massive pour les quatre sortes de domaines mathématiques que nous avions étudiés, l'analyse, l'algèbre, la topologie et la géométrie, et se déactive ou reste extrêmement silencieux pour la condition de connaissance sémantique générale. Et vous voyez que c'est le cas dans tout ce réseau, le lobe pariétal bilatéral au niveau du sillon intrapariétal, plutôt dans sa partie latérale. Vous avez aussi les régions temporales, ventrales, ici, latérales, et toute une partie du cortex préfrontal, surtout à gauche, mais aussi à droite, et vous voyez qui est dorsal et qui n'atteint pas la région de Broca, proprement parlé ici, on va en reparler tout au long de ce cours. Vous voyez que c'est un réseau bien particulier qui se déclenche dès qu'il y a des mathématiques. Alors, nous voulions étudier les différences entre domaines mathématiques avec l'hypothèse que peut-être la géométrie, par exemple, ou l'algèbre se comporterait de façon différente des autres domaines. On peut imaginer que l'algèbre ferait plus appel aux aires du langage. Mais ça n'était absolument pas le cas, et c'était une des premières surprises de ce travail, de voir que le réseau en rouge ici, c'est l'intersection des quatre grands domaines des mathématiques que nous avons étudiés, à nouveau analyse, algèbre, topologie, géométrie, partage, une activation commune. Il y a de petites différences que vous voyez en jaune ici, et ces différences sont illustrées par des diagrammes d'activité. On voit que la géométrie, en particulier, active souvent un peu plus de régions qui sont des régions occipito-pariétales ou occipito-temporales, ici postérieures, qui pourraient être liées au contenu visuel des stimuli. Et effectivement, dans cette expérience, nous demandions également au sujet, après être passé dans l'IRM, lorsqu'ils étaient sortis de l'IRM, nous leur représentions tous les problèmes mathématiques et nous leur demandions, pour chaque problème, quel était votre degré d'intuition ou de réflexion formelle, quel était votre degré de visualisation du problème, etc. Et le seul corrélat que nous ayons trouvé avec ces introspections, c'est une augmentation de l'activité dans la partie postérieure de la région pariétale, ici, et également dans cette région occipito-temporale ventrale, lorsque les sujets ont un contenu visuel, une forme d'imagerie visuelle assez forte. Donc il y a sans doute de petites différences avec un contenu visuel qui joue un rôle, mais surtout une énorme intersection, un réseau commun à l'ensemble de la réflexion mathématique. Alors évidemment, ce réseau, nous ne le trouvons que chez les mathématiciens professionnels. Donc voilà le réseau chez les mathématiciens. Et vous voyez que si on fait les mêmes courbes d'activité chez les sujets contrôle, ils ne parviennent pas à déclencher ce réseau par l'écoute de ces phrases extrêmement abstraites que vous avez entendues. Donc, ça crée une interaction significative que l'on peut visualiser ici, c'est-à-dire toutes les aires cérébrales qui sont plus activées par les mathématiques que par les non-mathématiques, chez les mathématiciens plus que chez les non-mathématiciens. D'accord ? Donc, ce réseau est vraiment le réseau qui caractérise les mathématiciens en tant que groupe, si l'on peut dire, par rapport aux autres sujets. Alors, vous voyez qu'il y a une activation qui est assez nette ici, au niveau de la région frontale gauche ou précentrale gauche, ça descend un petit peu jusque dans le cortex frontal inférieur gauche, mais ça reste extrêmement dorsal. Alors, que se passe-t-il dans le sens inverse? Lorsque vous répondez aux questions sur le Moyen-Âge, l'alcool, etc., sur les connaissances sémantiques générales, eh bien, il y a un autre réseau qui se déclenche, et cette fois-ci, ce réseau est commun, comme on peut s'y attendre, aux mathématiciens et aux non-mathématiciens. C'est le réseau que vous voyez en vert, ici. Vous voyez que dans chacune de ces régions, il y a une activation spécifique à la fin de la phrase pour les connaissances sémantiques générales et pas pour les mathématiques. Et les mathématiques laissent ce réseau extrêmement silencieux, voire déactivé chez certains sujets. Et que c'est un réseau bilatéral qui implique les régions antérieures du lobe temporal, du gyrus temporal moyen jusqu'au pôle temporal, et des régions extrêmement postérieures à la jonction temporo-pariétale, ici, aussi bien à gauche qu'à droite, et également toute une activation qui est extrêmement antérieure et mésiale dans le lobe frontal, et un petit peu également ici, dans la partie orbitaire du gyrus frontal. Donc, vous voyez, un réseau que nous partageons tous, qui est impliqué dans la réflexion sur les connaissances sémantiques générales. Alors, ce réseau n'est pas nouveau, il était en fait assez connu dans une série d'études, même si nous avons peut-être mené des études sur un niveau d'abstraction plus élevé, au niveau de la phrase, mais je vous rappelle d'abord le travail de Christophe Pallier, dont j'ai souvent parlé au laboratoire, et nous avions montré qu'il y a toute une série de régions dont l'activité augmente avec la complexité des constructions qui sont contenues dans cette phrase, mais uniquement lorsque ces constructions utilisent des vrais mots. Lorsque les phrases utilisent du Jabberwocky, on peut trouver les activations en bleu ici, mais les régions en rouge coïncident avec l'utilisation de vrais mots, et donc lorsqu'il y a une sémantique de la phrase. Et surtout, des méta-analyses très importantes, menées notamment par Jeff Binder, dont je vous recommande particulièrement les travaux. Et Jeff Binder, ici, publie un article où il passe en revue 87 études d'imagerie cérébrale dans lesquelles on a manipulé la dimension sémantique des stimuli en opposant des stimuli qui ont du sens et des stimuli qui n'ont pas de sens. Et vous voyez que le réseau, là encore, comprend une très forte composante de la région, disons, temporo-pariétale ou la région pariétale inférieure, le gyrus angulaire, et aussi toute cette activation tout le long du lobe temporal. Et puis ces régions plus antérieures du cortex préfrontal ici et la région très inférieure orbitaire du gyrus frontal inférieur. Vous voyez que dans le cas de Binder, c'est souvent latéralisé à gauche, ce qui est peut-être particulier à notre étude, c'est faisant appel à des connaissances peut-être plus floues, d'une notion plus générale, nous avons affaire à un réseau qui est complètement bilatéral dans notre étude. Bien, alors il y a donc une dissociation extrêmement nette entre connaissances mathématiques et connaissances non mathématiques. Et on peut se demander si ça n'est pas simplement une sorte d'artefact de l'analyse, puisque quand je vous montre cette image, c'est soit mathématique plus que connaissance sémantique, soit connaissance mathématique plus connaissance non sémantique pardon plus que mathématique. C'est l'un ou c'est l'autre, mais ça ne peut pas être les deux en même temps. Donc l'absence d'intersection dans cette image est une conséquence évidente de la manière dont nous comparons ces deux domaines l'un par rapport à l'autre. Alors, je vous montre également une deuxième image qui est plus intéressante parce que là, il pourrait y avoir une intersection. Dans cette image, on va comparer les phrases qui ont du sens en mathématiques versus les phrases qui n'ont pas de sens en mathématiques. Et de la même manière, on va comparer les phrases non mathématiques qui ont du sens et les phrases non mathématiques qui n'ont pas de sens. Alors, sur le plan du comportement, on a vu très clairement que dès qu'une phrase n'a pas de signification, dès que c'est du charabia, les sujets sont capables de l'écarter très rapidement. Je parle des mathématiciens, bien entendu. Donc, il l'écarte très rapidement, et ce qu'on voit au niveau cérébral, c'est que l'activation est moindre. Et les endroits où cette activation est moindre indiquent le réseau des mathématiques à nouveau. Donc, vous voyez en bleu ici. Donc, on voit très bien que ce réseau s'active pour toutes les mathématiques, mais lorsque les phrases n'ont pas de signification, en bleu clair ici, il s'active un petit peu moins, il s'écroule plus rapidement. Et même chose dans le cortex inférotemporal ici. Je vous montre le cortex pariétal gauche et le cortex inférotemporal gauche comme exemple, mais c'était vrai dans l'ensemble de ce réseau qui est en bleu ici. Et de la même manière, on peut faire la même soustraction pour les connaissances sémantiques générales, donc les phrases qui ont du sens versus les phrases qui n'ont pas de sens. Vous voyez que là encore, on trouve un autre réseau qui est en vert, le même réseau qu'auparavant, et qui s'active moins pour les phrases qui n'ont pas de sens. On peut s'arrêter de travailler plus tôt et dire « Ah, je sais, je peux rejeter cette phrase, je n'ai pas besoin de réfléchir, elle n'est ni vraie ni fausse, elle est absurde, c'est du charabia. » Donc vous voyez qu'avec cette comparaison-là, il pourrait y avoir une intersection dans le cerveau entre les deux types de connaissances. Et il n'y en a pas, il n'y en a pratiquement pas. Une toute petite intersection ici, peut-être artefactuelle au niveau de la région frontale dorsale. Il y a vraiment deux réseaux complètement dissociés. Alors que se passe-t-il dans les aires du langage, puisque c'était notre question au départ? Est-ce que les aires du langage contribuent à l'une ou l'autre de ces réflexions? Eh bien, on peut regarder l'ensemble du réseau qui a été identifié par Christophe Pallier, donc les régions d'intérêt qui sont issues du travail précédent, dans l'hémisphère gauche ici. Et si on regarde l'ensemble de ces régions, je vous montre juste deux exemples, eh bien, le résultat est extrêmement clair. Ces régions s'activent de façon uniquement transitoire pendant la présentation de la phrase. Évidemment, dans toutes ces conditions, on écoute une phrase, on traite cette phrase, et il peut y avoir des activations qui sont donc strictement identiques, cette fois-ci, entre les cinq conditions. Les rares cas où il y a une différence, elle est systématiquement dans le sens que vous voyez ici, c'est-à-dire plus d'activation pour les problèmes non mathématiques. Ce sont eux qui font tourner le système du langage un petit peu plus longtemps, notamment dans le pôle temporal dont on avait vu l'activation liée aux connaissances sémantiques générales. Ça n'est jamais dans le sens inverse. C'est-à-dire que ce n'est jamais les mathématiques qui font tourner le réseau du langage de façon supérieure. Donc on a une réponse très claire ici. Le réseau du langage ne contribue qu'à la partie compréhension de la phrase, mais il ne contribue pas du tout à la réflexion mathématique. Et de fait, si je vous montre ces images maintenant dans lesquelles j'ai superposé le réseau que je vous montrais auparavant, c'est-à-dire mathématiques plus que non mathématiques pendant la période de réflexion, il est en jaune ici, et je le compare au réseau en rouge des aires du langage, c'est chez le même sujet, eh bien vous voyez que les deux s'excluent pratiquement l'un l'autre. Le réseau de la réflexion mathématique contourne pratiquement toutes les activations qui sont liées au langage, qui sont ici dans la partie supérieure du lobe temporal et dans la partie inférieure de la région frontale gauche. Donc il y a vraiment une sorte d'exclusion complète de l'un par rapport à l'autre. On ne s'attendait pas à trouver une réponse aussi tranchée, aussi claire, mais elle est extrêmement claire ici. Alors qu'est-ce que c'est que ce réseau des mathématiques ? Eh bien en fait, nous n'étions pas tellement surpris de voir ce réseau particulier, avec notamment les régions pariétales bilatérales et les régions temporales inférieures bilatérales, parce que c'est un réseau que nous connaissions déjà. Nous le voyons activé non seulement chez les mathématiciens lorsqu'ils réfléchissent à des problèmes de très haut niveau, mais également chez tout le monde lorsque nous voyons simplement des nombres par rapport à d'autres images, et chez tout le monde également lorsque nous faisons des calculs et que nous opposons ces calculs à des réflexions sur des phrases. Donc, vous voyez ici, ces réseaux, pour ces trois types d'activités, mathématiques de haut niveau, visualisation des nombres et calcul extrêmement simple, 7-3, et l'intersection de ces réseaux qui montrent bien qu'il y a un réseau commun. Autrement dit, il semble bien que nous nous appuyons, lorsque nous faisons des mathématiques, sur des réseaux beaucoup plus simples, beaucoup plus anciens, partagés par tout le monde, pour le traitement des nombres. Et voici donc cette image déjà très ancienne, une quinzaine d'années, ça fait beaucoup de temps, maintenant ça fait 20 ans que nous scannons ces réseaux de représentation des nombres, donc dans le cortex pariétal, c'était très bien connu, et de façon plus récente, la contribution des régions temporales ventrales également au traitement des nombres. En fait, c'est une découverte qui est due au laboratoire de Joseph Parvisi, à l'université de Stanford, une découverte qui est due à l'utilisation d'enregistrements intracrâniens, parce qu'au départ on n'a pas vu cette région en IRM fonctionnelle. Maintenant vous voyez qu'on la voit très très bien. Il y a eu une évolution de la capacité de faire l'imagerie en IRM fonctionnelle en évitant les distorsions qui étaient fréquentes dans cette région, et avec les imageurs modernes, vous voyez qu'on arrive très très bien à voir cette région ventrale, mais au départ on ne l'a pas forcément vue, et c'est une technique donc d'enregistrement intracrânienne qui a permis de la mettre en évidence. Alors je vais consacrer quelques temps à vous expliquer comment ça fonctionne. C'est donc tout le travail du groupe de Joseph Parvisi, voici quelques publications, et ces chercheurs donc font partie d'un laboratoire d'épileptologie. Vous savez que pour étudier l'épilepsie, pour essayer de focaliser la source exacte des crises d'épilepsie, eh bien, les chercheurs américains en particulier utilisent des grilles d'électrodes que vous voyez ici, qui recouvrent toute une région du cerveau. Et la technique française, elle, consiste à insérer des électrodes profondes, ce qu'on appelle stéréo-EEG, qui vont pénétrer dans le cortex. Et souvent, les deux techniques sont combinées, parfois chez les mêmes sujets, pour explorer l'épilepsie. Et en dehors des crises d'épilepsie, évidemment, nous pouvons nous servir de ces enregistrements comme un marqueur de l'activité neuronale sous-jacente. En fait, chaque électrode va enregistrer l'activité d'un petit groupe de neurones sous-jacents, peut-être quelques dizaines de milliers de neurones, dans le cas de ces électrodes d'électrocorticographie, Et c'est une technique qui est remarquablement sensible, notamment à l'activité de haute fréquence. Donc ici, ce sont des enregistrements de Amy Deitch et de Joseph Parvisi, que je remercie de m'avoir prêté ces diapositives. Et vous voyez que l'une de ces électrodes, lorsque le sujet réalise une tâche de mathématiques, montre une extraordinaire décharge très intense de haute fréquence qu'elle ne montre pas dans une tâche de difficulté comparable, mais qui implique la mémoire ici. C'est cette activité de très haute fréquence, au-delà de 50 Hz, qu'on appelle le high gamma, le gamma supérieur, et qui semble traduire l'activité sous-jacente des réseaux neuronaux, l'activité de décharge neuronale. Et on voit très très bien ici qu'on peut isoler une bande de fréquence. Et si maintenant on indique comment cette bande de fréquence répond aux différentes conditions, eh bien on voit l'intérêt de cette technique, c'est qu'elle a à la fois une excellente résolution temporelle et une excellente résolution spatiale. Et en fonction du temps, ici, une extraordinaire décharge sélective pour les mathématiques dans cette électrode-ci, rien dans l'électrode du milieu et le contraire dans l'électrode d'à côté. Ce sont des électrodes qui sont séparées par quelques millimètres, typiquement 5 ou 6 millimètres, et pourtant, vous avez une électrode qui répond aux mathématiques, une autre qui ne répond pas aux mathématiques. Alors ici, vous avez remarqué qu'on est dans la région temporale inférieure, et c'est bien donc dans cette région qu'on voit ces réponses aux mathématiques. La publication initiale de Chum et collaborateurs avec Joseph Parvisi, qui a révélé donc l'existence de cette région sensible aux chiffres arabes. Au départ, cette publication décrivait cette région comme ne répondant qu'aux chiffres arabes et pas aux lettres. Donc elle a été appelée l'ère de la forme visuelle des nombres. Et on insistait sur ses propriétés de réponse visuelle. Vous voyez qu'elle décharge extrêmement fortement lorsqu'on présente un chiffre arabe, très peu lorsqu'on présente une lettre, et pratiquement pas lorsqu'on présente d'autres symboles mélangés qui n'ont pas de signification particulière. Donc une réponse extraordinairement sélective ici, c'est surprenant. Juste à côté de cette région, dans l'hémisphère gauche, ici, on va trouver une réponse aux mots écrits, à la forme des lettres. C'est ce que Laurent Cohen et moi avons appelé l'ère de la forme visuelle des mots. Et vous avez donc deux régions, côte à côte, séparées de quelques millimètres, l'une qui répond fortement aux lettres, l'autre qui répond fortement aux chiffres. Alors dans la publication initiale, cette image est un peu trompeuse parce qu'on a l'impression que l'activation n'existe que dans l'hémisphère droit. C'est un hémisphère droit qui a été... le cerveau a été vu de dessous ici, donc il faut faire une sorte de rotation mentale pour comprendre que c'est l'hémisphère droit et ça c'est l'hémisphère gauche. Mais la publication est trompeuse parce que vous voyez qu'il n'y avait pas beaucoup de patients avec des électrodes dans l'hémisphère gauche. Une fois qu'il y en a eu plus, on s'est aperçu que c'est strictement bilatéral, qu'il y a une activation bilatérale ici et qui est plus latérale que l'activation causée par les lettres. Et le travail continue, il est encore en cours, il se poursuit aussi dans mon laboratoire, on collabore étroitement avec Joseph Parvisi, notamment les travaux de Pedro Pinheiro Chagas pour sa thèse, et on s'aperçoit que cette région fait un traitement qui va bien au-delà du simple traitement des chiffres arabes, de la reconnaissance des chiffres arabes. Par exemple, lorsque vous devez faire un calcul complexe, comme ici cette tâche de mathématiques, et qu'on l'oppose à une tâche de mémoire, eh bien, toutes les régions qui sont en rose ici sont activées sélectivement par la tâche de mathématiques, par le calcul mathématique. Et elles vont s'activer en proportion de la difficulté du problème à résoudre. Donc ces régions-ci vont être retardées pour les problèmes les plus difficiles, et ces régions-ci vont avoir une activité qui est soutenue pour toute la durée de la résolution du problème. Donc, cortex temporal ventral et cortex pariétal semblent collaborer pour le calcul. Et les travaux de Amy Deitch, qui sont publiés à nouveau dans PNAS, montrent que différentes électrodes peuvent avoir des réponses très distinctes. Ici, la tâche est élégante, puisqu'il s'agit de résoudre un petit problème d'arithmétique, et chaque élément du problème est présenté successivement. 7 plus 5 égale 12. Et vous devez décider si c'est vrai ou si c'est faux. Ça permet d'isoler les réponses du cerveau à chacune des étapes du calcul. Et on voit que certaines électrodes répondent spécifiquement à la présentation des éléments du problème, et particulièrement les chiffres. Donc vous voyez les électrodes en vert et en bleu ici, qui sont des électrodes occipitales et plus en avant dans la région occipito-temporale, réagissent à la présentation des symboles. Et puis vous avez d'autres réponses, qui sont ici en orange et en rouge, qui viennent des régions pariétales et temporales ventrales, qui elles sont beaucoup plus soutenues, différées dans le temps, et qui semblent refléter l'étape de calcul elle-même. C'est au moment où vous devez faire le calcul, après la présentation du deuxième chiffre, qu'on les voit décharger, et également une deuxième fois lorsque vous devez prendre votre décision, décider si c'est juste ou si c'est faux. Donc il ne fait aucun doute sur la base de ces résultats qu'il y a effectivement un réseau qui colle tout à fait avec ce que nous trouvons en IRM fonctionnel, qui s'active même lors de problèmes arithmétiques extrêmement simples, avec le cortex pariétal et la région temporale inférieure. L'addition de cette région temporale inférieure est très importante pour nous, c'est vraiment une découverte de ces dernières années, mais maintenant nous la voyons systématiquement. On peut la voir d'ailleurs d'une autre manière, et c'est une publication assez élégante de Joseph Parvisi. Chez ces patients qui ont donc des électrodes implantées, on peut enregistrer l'activité en temps réel de ces électrodes. On la traduit par une courbe ici qui indique à quel point les décharges sont importantes dans les régions qui nous intéressent. Et chez plusieurs patients, au cours d'un dialogue naturel avec la famille ou avec les médecins, le personnel soignant, eh bien on s'aperçoit que les électrodes qui sont sensibles au nombre et au calcul vont décharger uniquement lorsque les éléments du dialogue font référence au nombre ou aux quantités ou aux durées temporelles, à tous ces phénomènes apparentés. Donc par exemple, vous voyez ici, le patient était en train de dire « j'avais eu 8 ou 9 crises d'épilepsie » et 8 ou 9 semblent faire décharger cette électrode. Je vais vous montrer une seconde le film en question, vous pouvez le visualiser séparément, mais voilà quelques exemples. À chaque fois, que vous avez une décharge en rouge, le patient était en train de dire « Ah oui, j'ai eu deux, couple en anglais, crise », ou il parle de quantité. Je vais vous montrer un autre exemple. Je crois que c'est par ici. On change de patient. C'est un phénomène très reproductible. Il y a d'autres moments où la personne parle et raconte énormément de choses. Il y a des interactions sociales, il y a plusieurs personnes dans la pièce, mais cette électrode semble ne décharger, malgré cette condition d'extrême variabilité, hein, uniquement lorsque la personne parle des nombres, dit 10 ou 15 fois, ça m'est arrivé, etc. Une vraie relation assez directe, en fait, entre l'activité de ce réseau et la réflexion non seulement mathématique, mais en fait arithmétique. Alors, on peut revenir à cette étude donc, que nous menons au laboratoire sur les mathématiciens professionnels. Et à la fois, c'est intéressant de voir qu'il y a un recouvrement entre mathématiques et traitement élémentaire des nombres. En même temps, on peut se demander si c'est une source d'artefacts. Est-ce que le recouvrement pourrait être dû au fait qu'il y a des nombres dans nos énoncés? Alors, en fait, on avait anticipé cette critique et nous avions délibérément évité toute mention des nombres ou des faits arithmétiques dans les énoncés que nous allons présenter au sujet, le plus possible. Cela dit, évidemment, certains énoncés font quand même référence de façon indirecte à des nombres ou à des fractions. Par exemple, nous parlions de R2, ou de la sphère unité, du demi-grand axe. C'est extrêmement difficile d'éviter complètement les nombres lorsqu'on parle des mathématiques. Alors, Marie a mené une réanalyse de l'ensemble de ces résultats, puisqu'on a l'activation pour chaque phrase, hein. Et donc on peut écarter certaines phrases et nous avons analysé les résultats en écartant toutes les phrases qui parlent de nombres ou qui mentionnent vaguement les nombres et le résultat reste pratiquement exactement le même. Voyez. Donc ce n'est pas uniquement la présence des nombres qui explique l'activation que nous avons observée chez les mathématiciens. Il y a quelque chose de plus abstrait que cela. Deuxième artefact possible qui pourrait expliquer nos résultats, les problèmes mathématiques sont plus difficiles. C'est plus difficile de faire des mathématiques, selon cette hypothèse, que de réfléchir au Moyen-Âge. Bon, ça n'est pas du tout évident que ce soit le cas. Nous avions mesuré à la fois la difficulté objective, vous avez vu les performances des sujets qui ne sont pas différentes dans les deux domaines. Par ailleurs, il y a quand même une différence subjective, mais elle est extrêmement faible. Nous avions demandé au sujet d'évaluer la difficulté subjective de ces problèmes, et on a une toute petite différence subjective qui va effectivement dans le sens d'une plus grande difficulté pour les mathématiques. Alors, pour contrôler cette possibilité, eh bien, nous avons fait une analyse très simple. Marie a divisé les problèmes en problèmes faciles et en problèmes difficiles sur la base du fait qu'ils soient au-dessus ou en deçà de la médiane du sujet. D'accord ? Donc, pour chaque sujet décide quels sont les problèmes qui sont faciles pour lui ou difficiles pour lui. On les trie et on a, à la fois pour les mathématiques et pour les non-mathématiques, des problèmes difficiles et des problèmes faciles. Vous voyez qu'ils sont extrêmement bien appariés malgré tout. Et donc, il y a une énorme différence de difficulté subjective entre les problèmes mathématiques faciles et les problèmes non mathématiques difficiles. Et c'est la comparaison que nous avons faite, c'est-à-dire une comparaison qui, si l'effet de difficulté était prépondérant dans l'activation cérébrale, devrait inverser complètement le résultat. Voyez, on compare les maths les plus faciles avec les non-maths les plus difficiles selon les sujets eux-mêmes. Vous voyez qu'on retrouve largement le même réseau, pariétal gauche, bilatéral, dans la région temporale inférieure. On a moins de phrases, évidemment, ici, hein, on a moins de puissance statistique, mais le résultat est essentiellement exactement le même. Et vous voyez ici ces effets de difficulté qui ne sont pas du tout évidents. Les courbes bleues claires et bleues foncées, maintenant, vous indiquent les problèmes jugés faciles ou jugés difficiles. Ça ne fait pas une différence évidente pour l'activation de ces réseaux. Donc, la notion de difficulté n'est pas une explication suffisante pour rendre compte de l'activité que nous avons détectée ici. Alors, troisième hypothèse alternative que l'on peut essayer de rejeter ici, le recouvrement entre les régions des nombres et les régions des mathématiques pourrait n'être dû qu'au hasard, pourrait n'être dû qu'au fait que nous mesurons l'activité cérébrale avec une précision limitée. Et donc, lorsqu'il y a un recouvrement dans l'activité cérébrale, eh bien, ce n'est pas une très grande indication d'un partage de ressources. Il faut aller plus loin. Surtout lorsqu'on mène une analyse de groupe, vous imaginez que lorsqu'on analyse un groupe de 15 sujets, l'activation devient floue, elle n'est plus localisée de façon extrêmement précise, et alors les recouvrements entre activations n'ont pas forcément beaucoup de sens. Alors comment faire pour éviter ce problème ? Eh bien on peut revenir au niveau du sujet unique, c'est ce qu'on appelle une analyse multivariée de representational similarity. On va regarder à haute résolution, ici on avait des images de 1,5 mm isotropes, on va regarder le profil exact d'activation pour les mathématiques et, par exemple, pour une autre condition, pour les nombres. Et on va créer la matrice complète, intra-sujet, de similarité, c'est-à-dire de corrélation, entre les profils d'activation dans une condition et dans l'autre condition. Imaginez une carte de Corse extrêmement complexe, parce que ce sont au niveau individuel, ce sont des activations qui sont assez complexes, hein, qui occupent des territoires bien particuliers, propres à chaque sujet, à l'intérieur des grosses régions que je viens de vous montrer. Eh bien, on va regarder si cette carte de Corse est exactement la même lorsque je présente des mathématiques de haut niveau et lorsque je présente de l'arithmétique élémentaire, 7-3. Donc, je calcule une matrice de corrélation entre toutes mes conditions, analyse, algèbre, topologie, géométrie, non mathématiques. Et puis, je vais peut-être le faire verticalement ici, et puis on va regarder ce qui se passe lorsqu'on présente du calcul ou des phrases sans calcul, et puis toutes les conditions de présentation visuelle ici, des damiers, des visages, des corps, des outils, des maisons, des formules, des nombres ou des mots. Et vous voyez tout de suite le résultat ici. Je suis dans une région, je crois que c'est la région pariétale gauche, qui s'active pour les mathématiques, et vous voyez qu'on retrouve une ressemblance, par exemple, avec l'activation évoquée par les formules et par les nombres, plus que par les autres images, et aussi une ressemblance avec l'activation évoquée par le calcul. Et donc on peut quantifier cette ressemblance en revenant au niveau des 15 sujets, hein, et on s'aperçoit que, ici vous avez 4 régions, pariétale gauche et droite, temporale inférieure gauche et droite, à chaque fois, il y a une plus grande similarité d'abord des problèmes mathématiques entre eux, cette partie-là de la matrice, donc l'analyse ressemble à l'algèbre, l'analyse ressemble à la topologie, etc. Ensuite, l'activité mathématique ressemble plus au calcul qu'au traitement des phrases, et l'activité mathématique ressemble plus à ce qui se passe lorsque je visualise un nombre ou une formule mathématique que lorsque je visualise un visage, par exemple. D'accord. Donc, ici, on est au niveau du sujet individuel, on peut dire vraiment que la micro-topographie d'activation se ressemble et suggère que c'est bien le même système qui est activé par les maths de haut niveau et par le simple traitement d'un nombre. Alors on peut aller plus loin aussi et regarder ce qui se passe au niveau du cortex temporal ventral. Ce sont vraiment de très très belles images. En quelques minutes maintenant, on est capable, en bombardant le sujet avec toutes ces images, de subdiviser la région temporale et occipito-temporale ventrale en sous-régions spécialisées. Par exemple, en rouge ici, vous avez une région qui est tout à fait connue, célèbre, c'est la Fusiform Face Area, la FFA, l'aire fusiforme des visages, qui répond plus au visage qu'aux autres catégories d'objets. Vous voyez que c'est une région étendue d'avant en arrière, plus dans l'hémisphère droit, ici c'est l'hémisphère droit qui est à droite, hein, plus dans l'hémisphère droit que dans l'hémisphère gauche. Et vous trouvez toute une série de régions, et notamment donc, ces régions latérales sont en bleu ici, qui répondent plus au nombre qu'aux autres catégories d'objets. Et vous avez également des régions, même si c'est d'ailleurs les sujets contrôle, hein, qui répondent un petit peu aux formules mathématiques. Mais alors le résultat qui est extrêmement clair, c'est que quand on est un mathématicien, eh bien, on augmente l'activité et aussi la surface des régions qui sont consacrées aux nombres et aux formules mathématiques. Et dans cette région, on fait une comparaison au niveau du cerveau tout entier, mais c'est la seule région qui sort, est une région ici à gauche qui se met à répondre plus chez les mathématiciens que chez les contrôles, uniquement pour les formules et pour les nombres. Donc, lorsqu'on devient mathématicien, c'est logique, hein, on acquiert une expertise pour des objets visuels nouveaux, des nombres, des formules, des intégrales, des symboles particuliers, eh bien ces représentations s'inscrivent dans la région occipito-temporale ventrale, mais pas au même endroit que l'expertise pour la lecture, dont j'ai beaucoup parlé, mais dans une région qui est un petit peu plus latérale de l'hémisphère gauche, et c'est là qu'on va voir une expansion de ce territoire. Mais cette expansion est en soi une manifestation de ce phénomène de recyclage neuronal. On s'appuie sur des régions qui existent déjà chez tout un chacun, chez chacun d'entre nous, on a appris à reconnaître les nombres. Les mathématiciens vont s'appuyer sur ces régions encore plus et augmenter la fonctionnalité de ces régions pour d'autres symboles mathématiques. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous présenter une dernière comparaison qui est intéressante, regarde, pour toutes les autres catégories, dans un sens comme dans l'autre, quelles sont les différences entre mathématiciens et non-mathématiciens. On a cherché donc à travers tout le cerveau et on a trouvé une différence importante qui est la représentation des visages. Et ça ouvre des pistes assez intéressantes de recherche. Vous voyez qu'ici, on est dans cette région qui répond au visage chez chacun d'entre nous, dans l'hémisphère droit. Eh bien, cette région répond sélectivement moins chez les mathématiciens que chez les sujets contrôle. Alors, c'est curieux. Je vous laisse en tirer les conclusions que vous voulez. Nous n'avons pas, je dois insister tout de suite, de corrélation avec le comportement. Donc, nous ne savons pas s'il y a quoi que ce soit sur le plan comportemental, et j'en suis pas persuadé. Mais sur le plan des territoires corticaux, l'activation ne se regroupe pas de la même manière. En fait, c'est intéressant parce qu'on avait déjà trouvé, quand on avait travaillé sur la lecture, on avait déjà trouvé que la différence entre des personnes alphabétisées et des personnes qui n'ont pas appris à lire se situait déjà au niveau des visages. Les personnes qui n'ont pas appris à lire ont une représentation plus bilatérale des visages dans les deux hémisphères. Et plus on apprend à lire, quand on devient un bon lecteur, plus on chasse les visages en direction de l'hémisphère droit. Alors c'est intéressant ici de voir que les mathématiciens qui, eux, remplissent leur cerveau de formules mathématiques, de nombres, etc., travail qui est bilatéral cette fois-ci, temporal, gauche et droit, eh bien ont l'air de chasser les visages encore un petit peu plus jusqu'à ce qu'il y ait une diminution en fait, des activations dans l'hémisphère droit. Donc c'est une interprétation qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Je dois insister sur le fait que nous n'avons aucune notion de causalité ici. Hein. Très important. Nous avons recruté 15 mathématiciens, 15 non-mathématiciens. Personne ne sait comment ils étaient dans leur petite enfance. Est-ce qu'ils étaient déjà intéressés par les mathématiques? Quelle est la cause et la conséquence de ces apprentissages? Nous ne le savons pas. Et ce sont des questions extrêmement difficiles à résoudre. Mais nous ne pouvons nous contenter d'observer cette différence d'organisation du cortex visuel ventral. Alors, pour compléter cette démonstration sur l'étude de Maria Malric, je vous ai présenté pour l'instant uniquement ce qui se passait dans la période de réflexion mathématique pour les phrases mathématiques. Très brièvement, qu'est-ce qui se passe pendant la phrase elle-même? À peu près la même chose que ce qu'on a vu auparavant. Donc, dès l'écoute de la phrase, dès que vous entendez quelques mots mathématiques, vous commencez à activer ces régions bilatérales pariétales, surtout à gauche au départ, et puis bilatérales temporales inférieures. Il y a quand même une chose qui est très intéressante, c'est dès que vous entendez des mathématiques et que vous êtes mathématicien, vous activez le noyau codé, la tête du noyau codé, qui est une région impliquée dans le contrôle exécutif, la motivation. Et vous voyez que c'est une interaction presque parfaite. Ici, vous avez les mathématiciens qui activent plus cette région pour les mathématiques, à gauche et à droite, plus que pour les phrases non mathématiques. Et vous avez exactement l'inverse pour les sujets contrôle. Donc ça, c'est quand même assez étonnant. C'est-à-dire qu'il y a un système qui est sans doute impliqué dans le contrôle exécutif et la motivation qui se déclenche pour dire « ce sont des phrases sur lesquelles je maîtrise la situation, ce sont celles qui m'intéressent le plus, c'est mon domaine, je déclenche une attention particulière à ce domaine ». Il y a vraiment une sorte d'appétence pour les mathématiques, si on peut dire, chez les mathématiciens, qui se déclenche de façon très nette, ici, très ponctuelle, au moment où on écoute une phrase et on entend quelque chose de notre domaine favori. Dernier point, et c'est un point peut-être de détail, mais pour vous montrer qu'on a vraiment été fouillé dans ces données à la recherche d'intersections entre connaissances sémantiques générales et mathématiques. Depuis le départ, je vous dis que les deux sont complètement séparés. Lorsqu'on a été vraiment fouillé dans ces données, on a trouvé une toute petite intersection. Et elle est peut-être intéressante quand même, donc je vous la livre ici. Elle est dans les matériaux supplémentaires de l'article, donc il faut chercher un petit peu pour la retrouver dans l'article. Mais c'est quand même un point intéressant. Lorsqu'on écoute une phrase qui fait sens versus une phrase qui ne fait pas sens, eh bien, il y a des différences dans le cerveau. Ces différences se situent au niveau du gyrus angulaire. Probablement, elles indiquent le fait qu'on arrive à combiner les concepts entre eux. Et lorsque je vous dis le drapeau de la pomme de terre a été guillotiné, ces concepts ne se combinent pas entre eux de façon correcte. Eh bien, il semble que ce soit cette région qui intervienne et qu'elle intervienne un petit peu dans le domaine mathématique également. Parce que vous voyez ici qu'il y a une différence, c'est au niveau de ces courbes-ci, il y a une petite différence entre phrases compréhensibles et phrases dépourvues de signification. Et ceci pour les mathématiques en bleu et pour les non-mathématiques, c'est plus important en rouge ici. Donc une petite intersection, ce n'est pas d'ailleurs exactement au même endroit non plus, et c'est un peu difficile comme analyse, on est vraiment en train de pousser l'analyse au maximum, mais je me demande s'il n'y a pas là du sens, puisque c'est une région qu'on retrouve dans plusieurs études, vous en avez parlé l'an dernier, dès qu'on doit combiner même deux mots pour décider s'ils vont ensemble. Par exemple, vous voyez, plaid, on m'a dit qu'on prononçait plaid jacket, une veste à carreaux, ça va ensemble ou pas, versus moss pony. Un poney mousseux. Bon. Donc il y a des choses qui vont ensemble, des choses qui ne vont pas ensemble sur le plan sémantique. Cette région a l'air de faire le calcul. Donc il y a peut-être, au moment de l'écoute de la phrase, certaines opérations combinatoires qui ont à voir avec la combinatoire des concepts qui sont partagées entre mathématiques et non-mathématiques. Mais dès qu'on passe à la période de réflexion, ça disparaît. Et vous voyez que les courbes ici sont extrêmement claires. Il y a plutôt globalement une déactivation de cette région pour toutes les mathématiques par rapport aux non-mathématiques. Donc, le traitement mathématique fait appel de façon extrêmement transitoire à cette région pour la combinatoire des concepts. Alors, Maria Malric poursuit sa thèse. On espère qu'elle va la voir prochainement. Elle est ici dans la salle, donc je vois qu'elle apprécie la plaisanterie. Elle travaille bien et elle a réalisé toute une série d'expériences qui confirment et qui étendent ses premiers résultats, et qui ne sont pas encore publiés, mais qui vont l'être prochainement. Alors, expérience 2. Nous avons cherché à répliquer ces résultats avec des faits mathématiques beaucoup plus élémentaires, qui ne nécessiteraient pas une longue période de réflexion. Et en particulier, on peut se demander ce qui se passe avec les faits connus par cœur. Est-ce que, lorsque je récite quelque chose par cœur, est-ce que finalement je fais appel aux aires du langage ? On s'est aussi posé la question de cette différence entre faits visuels ou pas, et on a essayé donc d'optimiser cette différence entre caractère visuel ou pas des mathématiques en posant des questions sur le cercle trigonométrique. Alors je vous donne tout de suite des exemples. D'abord, pour ce qui est du par cœur, on s'est reposé sur des identités remarquables, donc A2 moins B2 égale A moins B facteur de A plus B, on connaît tous ça par cœur. Pour un mathématicien, c'est, je dirais, la tarte à la crème absolue, ou pour d'ailleurs un esprit bien fait, je dirais. Est-ce que ça fait appel aux aires du langage ? Application de ces faits à des choses très élémentaires. Donc ici, on applique une identité remarquable avec des nombres et des constantes particulières. X moins 1 facteur de X plus 1 égale X2 moins 1. Trigonométrie interprétation géométrique des nombres complexes. Notre idée, c'était que pour résoudre ce type de problème, on fait naturellement appel à la représentation dans le cercle trigonométrique. Donc, par exemple, la deuxième phrase se lit « La partie réelle et la partie imaginaire de e puissance i pi sur 4 sont égales. » Alors, ceux qui font des mathématiques voient que, ah oui, on peut visualiser e puissance i pi sur 4, là, il est à un certain angle, à 45 degrés, ah oui, ok, la partie réelle et la partie imaginaire sont égales. Oui. Pour ceux qui ne font pas de mathématiques, c'est sans doute du charabia, mais pour les mathématiciens, c'est extrêmement clair. Voilà, donc on s'est demandé s'il y avait encore, finalement, toute cette activation commune à ces problèmes. On avait également des problèmes de géométrie qui faisaient appel à des vraies phrases du type « la section d'une sphère par un plan est toujours un point », et puis, bien sûr, des contrôles, comme « le rock'n'roll est un style musical caractérisé par un tempo lent », et des contrôles d'encore plus bas niveau, une série de bips auditifs. Et je vais passer un peu rapidement, parce qu'on est encore en train de finir l'analyse de ces résultats, mais vous donner le résultat principal. Il y a toujours une intersection majeure dans les mêmes réseaux pour tous ces faits mathématiques. Le fait que ce soit appris par cœur ne semble pas faire de différence particulière. Il n'y a pas d'activation du langage pour des formules connues par cœur, comme A2 moins B2. Même dans ce cas-là, le réseau que nous avons vu auparavant, ici cortex inférotemporal gauche, cortex intrapariétal gauche, et se déclenche de façon massive lors de l'écoute de tous ces problèmes mathématiques. Il y a de petites différences, et notamment la visualisation semble à nouveau faire appel un petit peu plus aux régions occipitales et pariétales, mais ce sont des différences mineures à l'intérieur d'un grand réseau d'intersections. C'est intéressant de voir quand même que lorsqu'on simplifie les problèmes et on demande une réponse immédiate au sujet, avec un temps de réaction qui est de l'ordre d'une seconde ou une seconde et demie, hein, donc des réponses qui sont très rapides, très faciles, l'activation du cortex frontal diminue fortement. et également l'activation de cette région du gyrus angulaire ici. Donc il semble que l'on ait facilité le traitement et on conserve un noyau de régions qui sont, pour les connaissances sémantiques générales, les régions temporales bilatérales avec un petit peu d'activation de la région plus orbitaire ici du cortex frontal inférieur et puis ces régions donc bitemporales et bipariétales pour les mathématiques. Troisième expérience de contrôle, on s'est demandé s'il était possible de trouver des paramètres minimaux qui, au sein d'un traitement linguistique, ferait basculer le réseau vers le traitement mathématique. C'est le cas pour les nombres. Dès qu'on met un nombre dans une phrase, ce réseau s'active. Mais est-ce que ça pourrait être le cas pour une forme de logique plus élémentaire? On s'est demandé si la forme logique des phrases suffirait à déclencher l'activité de ce réseau mathématique. Alors, par exemple, est-ce qu'il suffit de parler de quelques objets ou de tous les objets ou peut-être d'avoir une négation dans la phrase pour immédiatement déclencher un traitement logique qui serait plutôt d'ordre mathématique, même chez des personnes non mathématiciens à ce moment-là. Et, ou bien, alternative, est-ce que ce réseau dépend vraiment de la présence de concepts mathématiques, même lorsqu'ils sont extrêmement simples, indépendamment de la forme logique des phrases? Alors, on a créé cette fois-ci une expérience qui est avec un design 4 par 2. Il y a les connaissances mathématiques ou non mathématiques, et on fait appel soit à des phrases purement déclaratives, la fonction sinus est périodique, les bus de Londres sont rouges. Vous voyez qu'on est allé vraiment vers des faits extraordinairement simples ici. Et puis ensuite, des phrases qui ont une tournure négative ou déclarative plus un quantifieur ou négative plus un quantifieur. Donc vous avez par exemple les hyperboloïdes ne sont pas connexes, il y a une négation. Les tigres ne sont pas carnivores. Certaines matrices sont diagonalisables, certains courants marins sont chauds. Certains ensembles infinis ne sont pas dénombrables. Certaines plantes vertes ne sont pas grimpantes. Vous voyez que là, il y a une combinatoire de plus en plus complexe d'opérateurs qui quantifient et qui impliquent une négation. Et bon, ce n'est pas une différence majeure, mais on s'est demandé si elle avait un impact sur l'activité cérébrale. Bien, la réponse en premier ordre, c'est qu'il n'y a pratiquement pas d'impact de cette complexité logique que nous puissions détecter. Par contre, nous continuons à détecter une différence majeure entre mathématiques et non mathématiques. Donc vous avez à nouveau notre réseau, il est répliqué une troisième fois ici, bilatéral, pariétal, bilatéral, temporal, inférieur. Les activations frontales ont pratiquement disparu tellement ces problèmes sont simples, il n'y a pratiquement plus de réflexion, la fonction sinus est périodique, c'est 500 millisecondes pour un mathématicien. Eh bien, vous voyez qu'on continue d'avoir ces activations mathématiques et toutes les phrases mathématiques, quel que soit le degré de négation ou de quantification, se trouvent séparées de toutes les phrases non mathématiques ici. On n'a pas pour l'instant, en tout cas en première analyse, observé de différence majeure. Il y a sans doute un petit effet des quantificateurs, mais cette fois-ci au niveau de la région de Broca. Donc c'est peut-être la complexité linguistique qui augmente lorsqu'on ajoute des quantificateurs, mais apparemment pas la complexité d'ordre mathématique. Oui, donc vous voyez toutes ces réplications. Je vais vous montrer une dernière réplication qui est quand même extrêmement intéressante. C'est ce qui se passe lorsqu'on pose la question de l'expérience visuelle. Nous avons eu la chance de travailler avec des mathématiciens d'un genre tout à fait particulier puisqu'il s'agissait de mathématiciens aveugles. Et on a saisi cette opportunité et on s'est demandé est-ce que les mathématiques seraient organisées de façon différente chez les aveugles. Si on réfléchit un tout petit peu, il y a une vraie question qui se pose ici. Beaucoup de personnes pensent que l'origine des mathématiques se trouve dans une sorte d'abstraction de la réalité qui nous est perçue, au moins dans une grande mesure, de façon visuelle. Il y a des formalisations très précises de cette hypothèse, par exemple un réseau de neurones qui est proposé par Stoyanov et Zorzi, qui attribue l'émergence de représentations des nombres à ce qu'on appelle le deep learning, un apprentissage profond sur des milliers d'exemples d'ensembles d'objets. Le réseau est exposé à des milliers d'exemples d'ensembles d'objets, de nuages de points, et il arrive à abstraire qu'il y a la présence de nombres différents d'objets dans ces ensembles. Mais vous voyez que c'est un modèle extraordinairement empiriste. Il faudrait, pour que ce modèle soit juste, que l'enfant soit exposé à des milliers d'exemples d'ensembles et que progressivement, il arrive à en extraire le nombre. Alors, ce modèle empiriste est quand même battu en brèche par des données qui existent déjà, qui montrent que les nouveau-nés, par exemple, sont déjà sensibles au nombre. C'est le travail de Véronique Izard, par exemple, ici à Paris. Et aussi, sur le plan strictement modélisation, on sait que même des réseaux aléatoires peuvent déjà présenter une sensibilité au nombre. C'est le travail de Thomas Hannagan au laboratoire, qui n'est pas encore publié, mais on n'a pas forcément besoin de faire appel à un modèle empiriste avec des milliers d'exemples pour rendre compte de la compétence numérique. Par ailleurs, si je reviens donc à la question de la privation de la modalité visuelle, eh bien, on sait en fait qu'il existe dans la littérature de nombreux exemples de mathématiciens aveugles, que ce soit aveugles tardivement, comme Léonard de Lair, par exemple, qui a passé les 20 dernières années de sa vie, années très productives sur le plan mathématique, en étant complètement aveugle, mais aussi des aveugles très tôt, voire de naissance. Et c'est un exemple extrêmement célèbre, ici celui de Nicholas Sanderson, qui était un grand mathématicien anglais qui a occupé la chaire de Newton à Cambridge, qui était discuté par Diderot dans la Lecture des aveugles, parce que précisément ses compétences mathématiques semblaient suggérer que l'expérience visuelle n'avait pas de nécessité absolue, mais il avait compensé par d'autres moyens, et notamment par le toucher. Cela dit, s'il y a compensation, ça peut peut-être vouloir dire que les réseaux des mathématiques devraient être radicalement différents chez les mathématiciens aveugles des mathématiciens non aveugles. Peut-être apprennent-ils à faire des mathématiques, mais d'une autre manière, avec d'autres modalités sensorielles, peut-être avec les aires tactiles, par exemple. Alors c'est dans ce contexte-là que nous avons voulu donc répliquer nos expériences chez trois mathématiciens aveugles. On a trouvé trois mathématiciens français de niveau élevé et qui ont bien voulu se prêter à nos expériences d'IRM à Neurospin. Alors voilà les résultats. Ici, vous avez les mathématiciens de l'expérience précédente. C'est sur un cerveau légèrement déplissé, ici, mais vous retrouvez les activations que je vous ai déjà expliquées. Et en dessous, les trois mathématiciens aveugles analysés en groupe. Et en fait, le résultat est extrêmement clair. Même sur des faits mathématiques de très haut niveau, ils ont à nouveau des activations bilatérales pariétales et des activations ventrales. On voit ici un petit peu, on a du mal à le voir, je crois. C'est quelque part par ici, dans la réflexion mathématique. Les problèmes les plus complexes étaient un petit peu difficiles pour certains de ces mathématiciens, et donc Marie a répliqué également son expérience 2 avec des faits mathématiques beaucoup plus élémentaires, une réponse immédiate. Et vous voyez que cette fois-ci, on voit très clairement ces activations temporales ventrales ainsi que bilatérales pariétales, et dans chacune de ces régions, les courbes indiquent qu'à chaque fois, on a tous les problèmes mathématiques qui activent plus que les problèmes non mathématiques. Si on regarde sujet par sujet, alors il y a un résultat qui est quand même très intéressant, c'est que les mathématiciens n'ont pas moins d'activation, ils ont plus d'activation lorsqu'ils sont aveugles. Et où se trouve cette activation? Eh bien, elle se trouve dans le cortex occipital. Le cortex occipital des aveugles n'est pas laissé en jachère, il n'est pas inactivé, il est en fait très fortement activé par la réflexion mathématique. Aussi bien dans l'expérience 1 que dans l'expérience 2, avec des différences de localisation que nous n'expliquons pas complètement, hein. Mais dans les deux cas, des activations occipito-temporales très nettes, parfois jusqu'au pôle occipital, pour les mathématiciens aveugles par rapport aux sujets qui sont voyants, et spécifiquement pour les mathématiques par rapport aux non-mathématiques, donc vraiment quelque chose de spécifique aux mathématiques. Ici, il s'agit des trois sujets. Je passe un petit peu vite parce que le temps file, mais le sujet ici qui a le plus d'activation visuelle est un très grand mathématicien. Il nous avait été signalé au départ par Cédric Villani. Et d'ailleurs, Cédric m'avait dit, tu sais, il est aveugle, mais il n'a pas forcément énormément de mérite parce qu'il a beaucoup plus de cortex à consacrer aux mathématiques. C'était une plaisanterie, évidemment, mais Cédric avait vu juste parce que ce mathématicien aveugle active énormément son cortex occipital lorsqu'il fait des mathématiques, bilatérales. Les autres ont des activations un petit peu plus modestes, mais c'est intéressant au niveau de la scissure calcarine ou très proche ici, donc probablement dans l'aire visuelle primaire. Donc, ce qui serait l'équivalent de l'aire visuelle primaire s'il n'était pas aveugle. Donc, vous voyez que c'est... activations reflètent de façon très claire qu'il y a une variabilité inter-individu et nous n'avons pas pu, contrairement à d'autres travaux dans le domaine, montrer que cette variabilité était due à l'âge auquel les personnes sont devenues aveugles. C'est une variable ici qui est très différente suivant les sujets. Il y en a un qui est anophtalmique ici, donc qui a toujours été aveugle, et puis les deux autres sont devenus aveugles au cours de leur enfance. Et vous voyez que ça n'est pas spécialement cette variable-là qui a l'air d'expliquer les activations ici. Donc, évidemment, c'est très difficile de trouver un grand nombre de sujets de ce type. Je ne pense pas qu'on en aura plus que 3, mais on peut déjà tirer des conclusions très claires. La cécité n'entrave pas le développement normal des aires cérébrales impliquées dans les mathématiques. Le réseau des mathématiques peut se développer en l'absence de toute expérience visuelle, et ça va bien avec l'idée qu'on a hérité de notre évolution un sens des nombres qui n'est pas dépendant des entrées sensorielles. Et à nouveau, ces aires chez les aveugles comme chez les sujets voyants n'impliquent pas les aires du langage. Donc, au contraire, les mathématiciens aveugles cooptent ou recyclent encore plus que les mathématiciens voyants des aires visuelles supplémentaires pour la réflexion mathématique. Donc la conclusion est encore plus forte, on est encore moins dépendant des aires du langage, semble-t-il, lorsqu'on est aveugle. Alors, ceci converge avec un certain nombre de résultats de la littérature que je vais vous présenter très rapidement. D'abord, il y a des travaux d'imagerie cérébrale qui sont ceux de Monti et Parson et Osserson en particulier, qui ont montré, non pas sur des mathématiques de haut niveau, mais sur des problèmes d'algèbre extrêmement bien contrôlés, qu'il y avait effectivement une dissociation entre traitement linguistique et traitement mathématique. L'expérience est assez bien faite. Vous entendez deux petits bouts de phrases et vous devez dire s'ils disent la même chose ou pas, s'ils sont synonymes ou pas. Et dans le cas de l'algèbre, ça vous oblige à faire des manipulations algébriques dans le domaine de l'arithmétique élémentaire. Donc par exemple, excusez-moi, les étiquettes sont à l'envers ici, je suis désolé. Y est plus grand que Z divisé par X, X fois Y est plus grand que Z. Manipulez ces quantités dans votre tête et vous voyez qu'on a dit deux fois la même chose. D'accord. Maintenant, dans le domaine du langage, de la syntaxe du langage, on peut faire des problèmes assez similaires. Y a donné X à Z, c'était X que Y a donné à Z. Avec des manipulations syntaxiques élémentaires, on peut chambouler l'ordre de présentation des éléments. Les sujets entendaient littéralement X, Y et Z. Donc il y a des variables qui sont communes à ces deux types de problèmes. Mais vous voyez que dans un cas, c'est une manipulation de la syntaxe du langage qui permet de conclure. Dans l'autre cas, c'est une manipulation de la syntaxe de l'algèbre. Eh bien, les résultats sont extraordinairement différents. Et à nouveau, on a des activations très dorsales, ici en vert, avec quand même une intersection en bleu clair qui a peut-être à voir avec la difficulté ou la manipulation des variables, mais des activations dans les aires du langage uniquement pour les manipulations de la syntaxe du langage parlé, pas pour les manipulations algébriques. Donc une très belle dissociation semblable à celle qu'on a pu observer, mais avec une finesse dans le dessin expérimental. Et puis, un résultat qui est peut-être le plus important, vous avez des patients qui peuvent être très gravement aphasiques, agrammatiques, et continuer de faire de l'algèbre. Et donc on peut continuer, de la même manière qu'on pouvait être amusique, je vous en ai parlé la semaine dernière, on peut être amusique et ne pas être aphasique, ou on peut être gravement aphasique et ne pas être amusique, on peut être gravement aphasique et continuer de manipuler les structures mathématiques. Et ce sont des observations qui sont dues aux travaux de Varley en Angleterre, qui a montré par exemple que certains patients aphasiques pouvaient tout à fait capables de rester capables de faire A moins B au cube est égal à A cube moins 3A2B plus 3AB2, etc. Donc vous voyez, des manipulations algébriques peuvent rester intactes. Donc il y a bien deux langages différents. Alors je vais terminer en vous montrant une expérience récente qui est extrêmement alléchante parce qu'elle montre l'activation de ce réseau mathématique chez chacun d'entre nous comme un sous-ensemble des réseaux sémantiques du système cortical. C'est un travail qui est dû à Alexander Huss dans le laboratoire de Jack Gallant. Jack Gallant fait un travail absolument extraordinaire de cartographie du cerveau, cartographie individuelle, c'est-à-dire que chaque sujet est analysé un par un avec des dizaines d'heures d'imagerie pour chaque sujet, de manière à voir ce qui fait répondre les différentes régions du cortex. Je vais vous faire passer un petit film qui avait été réalisé par Nature pour expliquer ce qui a été fait ici, puis ensuite on va y revenir.
This is a map of someone's brain, showing roughly which areas respond when they hear different words. For example, there's a small area in the middle frontal tracts that reliably responds to hearing the word top. But it's not just one word, one location. A single word can activate a whole range of different brain regions. So we find the word top in a bit of brain that seems to respond to words associated with clothing and appearances. But also here with numbers and measurements. And here with buildings and places. We usually think of language as being restricted to certain sections, like the temporal lobe. So researchers were surprised to find activity all across the brain and in both hemispheres. The map was made by scientists at the University of California, Berkeley. They put volunteers in an MRI scan and had them listen to stories for 2 hours.
Back in the front again, deep, deep, and she pulled out a packet of matches that had been wandered at least once.
By monitoring blood flow to different parts of the brain, they worked out which places were responding to the meaning of the words, the semantics. They found that different...
Voilà, donc c'est un travail qui a été publié dans la revue Nature l'an dernier. On fait écouter des histoires, un petit peu comme on le faisait avec les patients avec des électrodes intracrâniennes, et on essaye de modéliser l'activité de chaque région du cerveau en réponse à des mots uniques. Alors c'est un peu la limite de l'exercice, c'est qu'on essaye de faire rentrer dans le moule d'une réponse à chaque mot unique l'activité de tout le cortex. Bon, donc c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'il y a certainement des régions du cortex qui ne s'intéressent pas au sens des mots isolés, mais au contexte, à la combinatoire, à la syntaxe, j'en ai beaucoup parlé. Donc ces régions sont forcées de rentrer dans ce moule de réponse à des mots uniques. Mais Jack Gallant en est d'ailleurs tout à fait conscient, il dit oui, peut-être qu'elles répondent en fait à ce qui s'est passé auparavant, etc. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est d'arriver à prouver que chaque voxel a ou n'a pas des réponses différenciées aux différents mots d'une histoire. Donc je vais passer sur les détails qui sont assez techniques, hein. C'est très intéressant d'ailleurs sur le plan technique, on projette les milliers de mots qui sont présents dans l'histoire sur un certain nombre de dimensions, en fait 985 mots communs, c'est ce qu'on appelle une analyse sémantique latente, c'est-à-dire qu'on regarde comment les mots sont associés entre eux dans le langage, et on se sert de ces associations pour constituer une base de réponses et ensuite prédire les réponses à des nouveaux mots. Et on arrive à cette carte de l'ensemble du cerveau, carte qui est disponible sur Internet, donc je vais vous montrer une seconde que vous avez ces images absolument magnifiques que vous pouvez explorer vous-même. Pour chacun des sujets de l'étude, en chaque point du cerveau, le système va vous dire à quel point ce voxel présente des réponses différenciées suivant les mots de l'histoire et quels sont les mots favoris qui font répondre cette région particulière du cerveau. Alors ici, vous avez des régions, vous voyez, qui répondent au domaine social lorsque, dans la phrase, on parle du mari, de la femme, des amis, etc. Et plus intéressant pour nous, dans le contexte de ce cours, vous avez des régions qui répondent spécifiquement au nombre et aux concepts mathématiques. Ici, c'est une région donc, pré-centrale de l'hémisphère droit. Et toutes les régions qui sont en vert ici, en vert foncé, ont tendance à répondre plus particulièrement au domaine des noms, et que ce voxel-ci est particulièrement sélectif à tous les nombres qui sont présents dans l'histoire. Si je reviens à mon exposé, j'ai isolé pour vous certaines de ces régions, et remarquez toutes les régions qui sont en vert ici, en vert foncé, et vous voyez qu'on retrouve essentiellement l'image que je vous ai montrée du réseau des mathématiques, c'est-à-dire des régions pariétales inférieures bilatérales, des régions temporales inférieures, et des régions frontales, dorsales, allant jusqu'aux régions précentrales ici. Et vous voyez que dans cette région, par exemple, on a des réponses non seulement à certains nombres, mais aussi à des unités comme le kilomètre ou la notion de distance. Dans cette région ventrale, vous avez peut-être des réponses plus concrètes qui sont liées au nombre, mais aussi aux unités de mesure ou à la position verticale, en dessous, au-dessus, etc. Et d'autres régions ici plus frontales qui répondent. Donc, l'analyse de Jack Gallant suggère que cette division des réponses du cortex est extrêmement prépondérante. Elle est présente chez tous les sujets et c'est pratiquement la première et la deuxième composante principale des réponses liées aux mots dans les phrases. Et ici, Alexander Rousse a bien voulu me prêter ces images et a généré d'ailleurs un petit site web sur lequel on peut voir ces composantes principales des réponses évoquées par les mots. La première composante principale trace de façon absolument remarquable le réseau classique des aires du langage avec le sillon temporal supérieur et la région frontale inférieure gauche ici et dans une moindre mesure les mêmes régions à droite. Et la deuxième composante principale, complètement différente, ressemble beaucoup au réseau que je vous ai montré activé par les mathématiques. Donc il y aurait vraiment deux systèmes radicalement différents, mais qui sont extrêmement prépondérants. C'est vraiment une division majeure de l'organisation du cortex dont nous disposons tous pour la représentation des nombres et qu'ensuite on peut étendre par l'éducation mathématique. Alors j'en viens donc à ma conclusion. Je crois que c'est extrêmement clair que sur le plan de l'imagerie cérébrale, les mathématiques font appel à un réseau très différent de celui des aires du langage. Les aires du langage peuvent être activées, le réseau en rouge ici, mais elles le sont de façon transitoire et constante uniquement pour l'écoute des phrases mathématiques ou non mathématiques. Et à ce stade, il n'y a pas de différence entre mathématiques et non mathématiques. Mais très vite, l'activation va se déplacer et elle va se déplacer vers des régions distinctes selon que l'on parle de mathématiques ou selon que l'on parle de connaissances sémantiques générales. Vous avez donc cette dissociation entre le réseau bleu pour les mathématiques et vert pour les connaissances sémantiques générales. Et nous arrivons à la conclusion que la réflexion mathématique recycle Elle transforme, elle s'appuie sur des régions qui sont appliquées auparavant dans le calcul et dans la représentation des nombres. Ces régions ne sont pas uniquement impliquées dans le traitement des nombres, j'ai pu donner cette impression dans cet exposé, mais souvenez-vous que ce sont des régions qui sont quand même très vastes, et notamment dans le cortex pariétal, qui sont connues pour être impliquées dans la représentation de l'espace, du temps, de la logique, des probabilités. Le nombre n'est certainement pas le seul fondement des mathématiques, mais il semble bien qu'il y ait un réseau qui regroupe tous ces concepts mathématiques et permet de les combiner entre eux. Alors, c'est intéressant de voir que la relation entre langage et mathématiques ne dépend pas, apparemment, du domaine des mathématiques particuliers. On va peut-être trouver des exceptions, mais pour l'instant, on a étudié quand même l'algèbre, et on aurait pu penser que les combinaisons algébriques feraient appel à une sorte de langage et aux mêmes aires que les combinaisons syntaxiques. Et vous voyez que ça n'est pas le cas, même pour l'algèbre, et bien entendu pour la géométrie. Alors, ce sont des résultats qui demandent quand même à être nuancés, puisqu'il s'agit d'études qui sont menées chez l'adulte, et elles ne sont pas donc en train de tester la dernière hypothèse qui était présente dans ma diapo d'introduction, c'est-à-dire l'hypothèse d'Elisabeth Spelke, selon laquelle le langage joue un rôle, mais un rôle transitoire, un rôle d'échafaudage. Pour Elisabeth Spelke, c'est au cours de l'apprentissage que le langage joue un rôle de colle qui permet d'assembler les concepts, et ensuite peut-être que la routinisation de ces concepts déplace les connaissances dans des régions spécialisées. C'est une hypothèse qui reste quelque chose que l'on peut penser plausible, mais nous verrons la semaine prochaine que même lorsqu'on étudie le développement de l'enfant ou lorsqu'on étudie les connaissances mathématiques élémentaires en l'absence d'éducation, on n'a pas l'air de voir une dépendance particulière des aires du langage. En tout cas, pour l'instant, donc je vous laisse avec ce résultat prépondérant qui est « nous avons tous un réseau mathématique ». Nous pouvons devenir mathématiciens et développer ce réseau. Ce réseau ne fait pas appel aux aires du langage. Merci de votre attention.